Bienvenue sur le podcast « Si on sortait de la boîte ». Je m'appelle Caroline Prudhomme et je suis coach en relations conscientes. Mon intention avec ce podcast, c'est de t'offrir une invitation à sortir de la boîte de ton esprit et à croire que tellement plus que ce que tu vois est possible pour toi. À travers des épisodes solo, des partages d'expériences et des entrevues inspirantes, on explore une variété de sujets, de la spiritualité à la science, pour te permettre ce retour à ta souveraineté, profondément ancrée dans ton pouvoir personnel. On s'ouvre pleinement à ce moment où on s'autorise enfin à sortir de tout ce qu'on connaît pour aller à la rencontre de la personne qu'on est vraiment. La vie nous réserve de magnifiques surprises si seulement on accepte de les voir. Alors, es-tu prête à sortir de la boîte? Salut! Bienvenue sur un nouvel épisode de Si on sortait de la boîte. Je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui. Cette belle journée d'automne, chez nous, on a une journée pédagogique que j'avais oubliée. Puis aujourd'hui, c'est la dernière journée du programme de septembre qui est Célébration, Ode au présent. C'est la première fois que je donnais un programme en live et je suis tellement reconnaissante, remplie de gratitude des merveilleuses femmes qui ont été présentes avec moi, de leur énergie, de leur vulnérabilité, de leur volonté, en fait, à faire le travail. Oui. Puis à se remettre en question, puis à aller en introspection, puis tout ça, c'est tellement, tellement beau. Ça me remotive. J'en reviens pas que c'est le travail que je fais. J'ai tellement, tellement de chance. C'est comme... Alors, ça a été une merveilleuse semaine, très, très, très challengeante pour moi au niveau de mon mental, qui essaie de me garder en sécurité, puis c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose de nouveau que ça fait longtemps que j'ai envie de faire, mais que c'est ça. Il y a beaucoup de croyances limitantes qui remontent dans ce temps-là, de programmation, de doutes. Puis c'est le fun d'être capable de prendre le rôle de l'observateur, puis de les entendre, d'entendre tout ce que ma tête me dit, parce que c'est un bel indicateur, mais d'agir selon ce que mon cœur me dit quand même, c'est pas selon ce que ma tête me dit. Fait qu'en tout cas, ça a été une bien belle semaine de découverte pour moi, puis je suis vraiment honorée d'avoir pu maintenir l'espace pour ces femmes merveilleuses-là. Le programme sera disponible... en rediffusion, en capsule, je ne sais pas trop, c'est pas des capsules, en atelier enregistré, en fait, à partir de, pas la semaine prochaine, je me laisse une semaine pour le, éventuellement, on dit éventuellement, le programme va être disponible en enregistrement, alors ça va être possible de l'acheter pour le faire en self-pace. Puis voilà, cette semaine, je vous présente une belle conversation avec Sébastien Potvin, alias Barbada, qui est une drag queen que j'avais contactée dans le cadre cet été. Il y a eu beaucoup de controverses, puis j'écoutais l'épisode en rediffusion, puis je m'en suis voulu de ne pas avoir posé de questions à Sébastien là-dessus parce qu'il m'a ouvert une belle porte au départ, puis je ne l'ai pas saisi dans la conversation, mais j'aurais aimé ça, avoir sa perspective à lui de comment il a vécu cette controverse-là, en fait, au niveau humain puis au niveau personnel, parce qu'on le voit, tu sais, dans les médias, cet été, c'était la controverse de il fait des heures du conte, Barbada, en fait des heures du conte dans les bibliothèques de Montréal, puis là, il y avait eu des annulations d'heures du conte, puis ça avait comme fait une controverse autour du fait que c'était, est-ce que c'était parce que le fait d'être une drag queen, ça amène à la stigmatisation ou des trucs comme ça. Fait que bref, j'ai pas envie d'embarquer là-dedans parce que moi, c'est pas mon expertise, clairement pas, mais j'aurais aimé ça, en fait, poser au-delà de qu'est-ce qui était à l'extérieur, poser la question à Barbada, Sébastien sur le podcast pour savoir comment il avait vécu ça de l'intérieur, en fait. Mais bref, en tout cas, ça a quand même été une belle porte, ce moment-là, sur les médias sociaux, parce que moi, ça m'a permis d'entrer en contact avec Barbada, puis de lui proposer de venir sur le podcast, en fait. Puis je trouve ça vraiment, vraiment intéressant de voir l'humain, en fait, derrière la drag queen. Alors, c'est ça la conversation que je vous présente aujourd'hui. C'est une très belle conversation qui mène à des belles réalisations, à des belles réalisations, à des belles introspections sur comment on voit les choses, comment on fait les choses parfois en société aussi. Alors, je vous laisse sur cette merveilleuse conversation, puis merci beaucoup pour votre temps puis d'être ici pour écouter à chaque semaine. Bonne écoute! Salut Barbada, bienvenue sur le podcast Si on sortait de la boîte. Je suis vraiment contente de t'avoir avec moi aujourd'hui. Comment ça va?
Hey, ça va vraiment très bien. Extrêmement occupé avec l'été que je qualifierais d'ouragan dans mon cas. Ça a vraiment été un ouragan. Mais tu sais, un ouragan, normalement, ça se déplace, puis après ça, ça s'éteint. Moi, il ne se déplaçait pas lentement, disons. Moi, je me suis déplacé beaucoup, beaucoup d'allers-retours Montréal-Québec, Montréal-Toronto. J'ai vraiment, vraiment, et ailleurs au Québec aussi. Mais ça a vraiment été un ouragan qui est resté là pendant, je dirais, depuis le mois de mai. Là. Mai, juin, juillet, août, ça a juste été un gros ouragan. Et là, je commence à voir la fin de l'ouragan et être capable de ramasser après l'ouragan, là, vraiment à la façon dont... tu sais, les dégâts ont été faits, là, on voit l'état des dégâts, puis on commence à... Tu sais, c'est des beaux dégâts, là, je fais des blagues, parce que ça a été des opportunités vraiment extraordinaires cet été, des choses que j'avais jamais envisagées, ben, pas que j'avais jamais envisagé, mais dont j'avais rêvé certaines fois ou que je me voyais faire et qui se sont concrétisées. Entre autres, mon tout premier gala d'humour où j'ai vraiment présenté un numéro solo, là, un numéro en style stand-up comique dans un gala d'humour. Un numéro qui a pris la forme, pas nécessairement d'un stand-up avec un micro, là, mais plus d'une histoire, mais pour adultes. En tout cas, c'est très, très drôle. Puis ça, c'est quelque chose que je me voyais faire longtemps et qui s'est concrétisé cet été. Mais forcément, c'est des choses un peu plus nouvelles, donc qui prennent beaucoup plus de temps. Tu sais, c'est pas nouveau là, que je roule à 4, 5, 6, des fois 7 shows par semaine, mais c'est clair que ça fait... là, cet été, c'était beaucoup plus... des choses nouvelles, donc qui nécessitent beaucoup plus de préparation pour chacun de ces contrats-là. Mmh. Mais ça a été un très, très gros été.
Ah, puis ça t'a permis de faire rayonner ta lumière à plus grande échelle, c'est beau.
C'est une belle façon de le voir, tout à fait, absolument. À travers les projets, à travers certaines controverses aussi, mais à travers les médias, à travers toutes les plateformes que je pouvais utiliser pour effectivement faire rayonner mon art et l'art de la drague dans toutes ces plateformes-là. Je suis très, très, très content, vraiment. Là.
Wow, c'est le fun! Puis pour entamer la discussion, ben, je vais commencer avec la même question que je pose toujours à tout le monde, qui est: qu'est-ce qui a déclenché ton évolution personnelle?
Ben, ma naissance, probablement.
Parce que, tu vois, moi, c'est la première personne qui me répond ça, c'est bien.
Bon, ben écoute, moi je suis d'avis que notre évolution personnelle, elle commence dès qu'on est. Tu sais, je réalise aujourd'hui que je suis le fruit de toutes les personnes que j'ai côtoyées, toutes les personnes qui m'ont ouvert des portes, qui ont retenu la porte certaines fois aussi pour moi, des personnes qui m'ont vu dans certains projets ou qui se sont dit ça, je pense que ça serait intéressant d'avoir Barbada, ou même Sébastien aussi, c'était pas toujours dans le cadre de Barbada évidemment. C'est ça, toute ma vie, tu sais, même l'autre jour j'étais en voyage, puis je réalise que des fois la façon dont je parle, tu sais, avec mon chum tout simplement, que j'ai des expressions que ma mère utilisait, puis je me dis, mon Dieu, je suis ma mère, tu sais. Donc oui, ça commence dès la naissance, c'est là qu'on commence notre évolution personnelle. Il ne faut pas oublier que on n'est pas, tu sais, le tout est plus grand que la somme de ses parties, puis l'être humain, c'est un tout qui justement est plus grand que la somme de ses parties. Moi, je suis d'avis que je ne suis pas seulement une drague, je ne suis pas seulement un enseignant de musique au primaire, je ne suis pas seulement un ancien militaire, je ne suis pas seulement, bon, etc., un homme gay, je ne suis pas... C'est toutes des vases communicants, toutes des... j'ai mélangé plusieurs choses, j'ai mélangé le professionnel puis le personnel, etc., etc., dans ce que je viens de dire, mais il reste que c'est des vases communicants qui qui nous apportent des expériences qu'on doit, je pense, ou qu'on devrait, à tout le moins, utiliser dans les autres sphères, même si ce n'est pas directement en lien ou si on ne voit pas le lien de façon concrète ou instantanée. Moi, je pense que moi, personnellement, Barbada m'amène des choses à moi que j'utilise dans mon enseignement au primaire, puis l'enseignement au primaire m'amène des choses que j'utilise quand je fais des interventions à la télévision, puis quand je fais des interventions à la radio, des entrevues, puis les interventions à la radio, les réflexions que ça m'amène, je les amène quand je suis, par exemple, là, plus maintenant, parce que depuis un an, j'ai mis une pause là-dessus, mais quand je suis, par exemple, impliqué syndicalement, moi, j'ai une foule de tiroirs ou de cordes à mon arc, appelle ça comme tu veux, mais qui sont toutes sur le même arc, là. Il ne faut pas penser que c'est plein d'arcs différents. La personne en bout de ligne, c'est toute moi. Et ça, ces cordes-là, je les accumule depuis des décennies. Depuis, oui, parce que je ne suis plus très jeune. Mais depuis que j'ai fait un bout, je les accumule depuis ma naissance. Même s'il y a des cordes qu'on utilise moins souvent, elles sont encore là. Puis je pense qu'elles rendent l'arc encore plus solide, là.
Oui, ouais, tout à fait. Puis c'est vrai que c'est une expérience holistique, tu sais. On n'est pas juste une maman, un papa, un amoureux, un enseignant, tu sais, ça fait toute partie. Puis, comme tu dis, des choses d'une sphère de notre vie vont nous aider ailleurs. C'est quelque chose que je constate beaucoup dernièrement, souvent, des choses que je vais libérer dans ma vie personnelle vont me permettre de me sentir plus ancrée puis d'avancer dans ma vie professionnelle, mettons, ou de débloquer des choses à l'intérieur de moi qui vont faire que je vais juste être capable de plus être stable dans ma vérité, mais dans toutes les sphères de ma vie, pas juste, tu sais, c'est jamais juste dans un seul espace.
Oui, et ça passe beaucoup par, oui, les expériences qu'on a, mais les gens qu'on rencontre aussi. Je pense que, tu sais, c'est cliché un peu de le dire, mais je le dis quand même souvent qu'on a deux oreilles puis une bouche, alors on devrait écouter deux fois plus qu'on parle, puis les expériences que les gens peuvent nous apporter, les connaissances ou les toutes sortes de choses que, des fois, qui vont passer comme dans du beurre, puis tu te dis, bon, ça ne me servira jamais, ma discussion avec cette personne-là a été inutile, mais pas nécessairement, tu sais jamais quand ça peut te servir, puis quand tu peux, à un moment donné, dire, ah ouais, c'est vrai, j'ai parlé avec telle personne jadis qui m'expliquait que, etc., puis tu l'appliques pour toi ou tu l'appliques pour n'importe quelle situation. Moi, la drague me permet ça aussi, me permet de rencontrer une multitude de personnes. Tu en es le meilleur exemple. Je veux dire, si Barbada n'existait pas, on ne se serait pas rencontrés. Puis c'est exactement ça. Donc, la drague me permet vraiment ça, d'aller... moi-même, toutes les personnes à qui j'ai discuté à travers, par exemple, le podcast que moi-même j'ai aussi avec Gabriel, une drague de Québec, On a interviewé une trentaine de personnes à travers nos épisodes. Puis, chaque personne nous amenait des réflexions que, ah, wow, OK, c'est intéressant. C'est sûr que c'était beaucoup des gens du domaine culturel, des artistes, des comédiens, des comédiennes, des chanteurs, des danseurs. Mais on avait aussi, par exemple, Catherine Dorion, avec qui les discussions ont été orientées d'une autre façon. Mais chaque personne m'amenait des choses différentes et toutes des personnes que... je n'aurais malheureusement, par exemple, jamais rencontré, ou du moins, j'aurais peut-être rencontré, mais je n'aurais pas eu une heure à discuter avec ces personnes-là si je n'avais pas Barbada. Alors, moi, je suis d'avis que c'est sûr que je ne me souviens pas, évidemment, de tout ce qui a été dit, c'est impossible, mais il reste que ça m'a amené des réflexions, puis ça m'a amené à évoluer. Donc, l'évolution personnelle, elle se poursuit chaque minute de notre vie, chaque seconde, puis elle a commencé à la première minute de notre vie, je suis d'avis.
Oui, ou peut-être même avant.
Peut-être.
Ça dépend de nos croyances, mais oui. Ouais.
Ouais, c'est quelque chose
que je crois qu'on évolue d'une vie à l'autre, puis que cette vie-ci est simplement une scène dans le grand film de notre vie, dans le fond.
T'sais. Absolument. Ça, peu importe les croyances, mais même les gens, même quand on est dans le ventre de notre mère aussi, déjà, ça commence là aussi. Là. Ça peut être l'intérêt pour la musique. Si notre mère écoute beaucoup de musique, le bébé dans le ventre de sa mère, déjà, qu'on croit à plusieurs vies ou pas, peu importe, il reste que quand on est dans le ventre de notre mère, ça commence avant même notre premier souffle. Notre évolution personnelle, elle commence là, je pense.
Oui, puis on reçoit beaucoup de bagages aussi de ça, tu sais, l'état, oui. tu parles, mettons, de la musique puis tout ça, mais tu sais, même l'état émotionnel de notre mère durant la grossesse,
absolument.
C'est des choses qu'on va ancrer déjà dans notre subconscient de façon, tu sais, totalement ben, inconsciente, justement, vraiment. Mais qui vont nous affecter pendant toute notre vie sans qu'on le sache si on ne s'arrête pas à ça, tu sais, aussi.
Tout ouais. à fait, oui, ouais. tout à fait.
Ouais. Puis je suis curieuse que tu me ben, que tu discutes un peu de, en fait, qu'est-ce qui t'a amené à explorer ce côté-là de ta personnalité, justement, qui t'amène à te produire sur scène, qui t'amène à avoir un alter ego qui est Barbada, puis tout ça, parce que comme tu dis, c'est tout, ça revient tout à toi. Mais qu'est-ce qui a en fait déclenché l'envie de d'aller dans cette direction-là?
Moi, toute ma vie, j'ai bon, je vais l'exagérer, là, je vais dire à quelque chose qui est exagéré. Toute ma vie, j'ai jamais pris de décision.
On choisit toujours, c'est pas vrai ça.
Ouais, non, mais c'est parce que moi, dans mon cas, ça a vraiment été toujours les autres qui m'ont proposé des choses. Tout ce que je fais en ce moment, là, c'est quelque chose qui m'a été proposé. Évidemment, j'ai pris la décision de dire oui, d'accord? Mais en fait, je réalise avec le temps que c'est malheureux, ben, c'est pas malheureux, là, mais que c'est souvent à cause de ma personnalité, puis peut-être un manque de confiance en moi qui fait que j'ai rarement été capable de dire non, parce que je voulais pas déplaire aussi. Mm. Et donc, ça me faisait en sorte que je me ramassais dans des endroits que j'aurais jamais pensé aller. C'est comme ça que j'ai commencé les cadets. À 12 ans, un collègue de classe m'a dit « Hey, tu devrais vous attendre de t'inscrire dans les cadets. » J'ai commencé les cadets. C'est là que j'ai découvert la musique, que j'ai commencé à jouer de la flûte traversière. Avec la flûte traversière, l'intérêt pour la flûte traversière est venu, les cours privés de flûte aussi, toujours en continuant les cadets. Puis j'ai développé mon intérêt pour la musique et pour la flûte traversière grâce à quelqu'un, un de mes officiers, qui m'a proposé de me donner des cours de flûte. J'ai par la suite continué dans la musique parce que justement on m'a proposé de poursuivre dans la musique. La seule, je veux dire, vraie décision que j'ai faite, c'est vers où je m'en allais, par exemple, au cégep puis à l'université. J'ai fait le choix d'aller dans un programme à l'université, au cégep, pardon, en musique et en sciences humaines, donc un double DEC. Puis par la suite, j'ai fait le choix à l'université de continuer en musique. Mais toutes les opportunités que j'ai eues, je veux dire, plus professionnelles, c'est jamais moi qui est allé de l'avant pour les chercher. C'est toujours les autres, et je dis toujours, mais c'est vrai. Je ne vois pas d'exemple où moi, je me suis dit, OK, je fais ça, je m'en vais vers ça. C'est vraiment les autres qui m'ont proposé. Des fois, je l'ai peut-être lancé dans l'univers sans le savoir, puis les autres sont venus vers moi. Et puis, écoute, on peut jaser longtemps, là, je peux te nommer plein d'opportunités. La drague, ça a commencé exactement comme ça. D'accord. J'ai commencé en disant, je dansais dans un bar, il y a quelqu'un qui m'a approché et me dit « Hey, je t'ai vu danser, t'as l'air de bien danser, ça te tente-tu de venir danser pour mon spectacle? » J'ai commencé à danser pour des dragues pendant 2 ans et demi, puis par la suite, il y a des gens qui m'ont dit « Hey, t'as l'air le fun sur scène, tu devrais t'essayer au concours. » J'ai essayé le concours, j'ai pas gagné le concours, non, pas du tout même, c'était un peu merdique ce que j'ai fait, mais j'ai pas gagné, mais ça a fait en sorte qu'il y a quelqu'un qui m'a vu, qui m'a dit quelques mois après, « Hey, j'ai vu ce que tu as fait au concours, ça te tente-tu d'essayer une autre fois? » Et j'ai essayé, et là, Barbada a continué, parce que moi, dans ma tête, c'était une seule fois, une unique fois en 2005, et oui, il y a maintenant 17 ans. Alors, ça a continué, j'ai eu d'autres opportunités, d'autres personnes qui m'ont vu, qui m'ont dit « Ah, viens d'abord à Québec, faire des spectacles à Québec. » J'ai ouvert des portes à Québec, là aussi. Plus tard dans ma vie, j'ai commencé comme DJ, en 2011, parce que justement, Mado m'avait vu dans... Mado, maintenant, elle me connaissait très bien aussi, là, tout ça. Mais là, elle m'a dit, « Ah, on cherche un DJ. » J'étais tout simplement un mardi soir dans la cabine de DJ avec elle pour pitonner sur les éclairages, juste par plaisir. Je connaissais, je savais pas du tout ce que je faisais, mais elle dit, « Ça a l'air d'être intéressé. On cherche un DJ pour les dimanches. Ça te tente dessus. » J'ai dit, « OK, je vais l'essayer. » J'ai essayé, j'ai continué comme DJ. C'est une carrière qui s'est développée aussi à faire des contrats DJ pour des mariages, les parties, le Cirque du Soleil, les choses comme ça. Tu sais, ça s'est développé. L'émission pour enfants que j'ai plus récemment, là, je saute des étapes dans ma vie, mais l'émission pour enfants, ça a commencé parce que j'ai fait des heures du conte à la grande bibliothèque et que quelqu'un m'a approché par la suite pour dire « Hey, il y aurait quelque chose à faire avec ça ». Les heures du conte ont commencé parce que quelqu'un m'a dit « C'est vrai, t'es enseignant, toi, ce serait le fun, j'ai vu ça, ça se fait aux États-Unis, des dragues qui lisent des histoires aux enfants, puis toi, t'as l'air à l'aise avec les enfants, ça te tente-tu? » J'ai dit « Ben oui, parfait, on l'essaye. » Je te dis, toutes les opportunités dans ma vie m'ont été proposées. C'est sûr qu'après, moi, j'ai fait le choix de quand même bien le faire, puis d'investir du temps pour le faire. Mais, tu sais, c'est pas
mais
moi
c'est que... Mais c'est qu'aussi, à quelque part, ça devait vibrer à l'intérieur de toi, tu sais, parce que là, tu dis, en tout cas, moi, je pense que la vie est bien faite, puis que l'univers, comme tu dis, nous présente des opportunités, puis après, tu choisis de les saisir ou pas, mais quand on est aligné avec nous-mêmes, ça vient tout seul, puis c'est ça qui est beau, tu sais, le fait de dire, genre, j'ai choisi quand même de répondre à ces opportunités-là, mais, tu sais, ça démontre aussi que tu es sûr un chemin qui te convient présentement parce que absolument. Toutes ces choses alignées-là te sont présentées. Puis je suis curieuse de savoir si tu es familier avec le human design.
Non, je ne sais pas c'est quoi ça.
Okay. Parce que tout dépendant de ton type, là, je ne suis pas une experte en tout, là, mais c'est quelque chose que j'explore pour moi personnellement. Puis tout dépendant de ton type, comme moi, je suis générateur-manifesteur, manifesting generator, puis en fait, la façon dont on fonctionne, c'est de répondre à qu'est-ce qui nous est présenté dans le monde. Puis ça, ça fait plein... En tout cas, je ne sais pas si toi, c'est ça ton type, mais en tout cas, tu sais, de répondre à qu'est-ce qui t'est présenté. Puis là, oui, ça vibre avec moi, je choisis d'y aller. Ou genre, non, ça vibre pas avec moi, je ne le fais pas pantoute. Tu sais, fait que
moi,
ça me faisait penser à ça.
Ouais, moi, ça n'a jamais rapport, ça vibre avec moi ou pas. Je dis oui. Je veux dire, j'ai un gars qui m'a approché récemment qui, lui, a l'air d'avoir des vidéos un peu conspirationnistes ou ça a l'air weird son affaire un peu. J'ai dit, ben oui, OK, on va te rencontrer, on va voir qu'est-ce que ça en est. Je veux dire, j'ai jamais, moi, si, à moins que ça ne fitte pas dans mon horaire. Si, exemple, tu me dis, ben telle date, es-tu disponible, puis j'ai autre chose, ben je fais, malheureusement, je ne suis pas disponible. Tu sais. Mais sinon, moi, je dis oui parce que je me dis, le pire qui puisse arriver, c'est que ça ne fonctionne pas. T'sais, le pire qui puisse arriver, là, c'est que je le rencontre, mettons, ce gars-là, je donne ça comme exemple, puis que finalement, une fois qu'on enregistre nos affaires, on fait comme, sais-tu quoi? Clairement, on n'est pas sur la même vision. Puis c'est correct aussi, on a parfaitement le droit, mais je pense que ça ne fonctionnera tout simplement pas, mais au moins, on l'aura testé. Tu sais, je veux dire, non, moi, si ça fit, si... Il y a quelqu'un à quelque part qui m'approche, parce que comme je dis, c'est tout le temps ça, moi, c'est que cette personne-là voit quelque chose qui fitterait ou qui aurait un intérêt, puis je me dis, go, on l'essaye. Ça se peut que ça ne fonctionne pas, comme je te dis. Ça se peut très bien, mais j'y vais. Parce que on le sait jamais. On le sait jamais. J'ai des opportunités qui sont arrivées parce que j'étais à une place. Je viens d'en nommer quelques-unes, là, mais... des fois, ça fait un jeu de domino, tu es à une place, tu vois quelqu'un qui te voit, puis là, ben, ça t'amène ailleurs. Puis je peux en nommer aussi des exemples. Ou exemple, j'ai animé, moi, les Grands Feux Loto-Québec, les soirées des Grands Feux Loto-Québec à Québec. Ça a été un des très, très gros contrats dans ma carrière aussi. J'étais le directeur musical des soirées des Grands Feux Loto-Québec à Québec pendant 2 ans de temps. Puis j'animais aussi les soirées des Grands Feux sur la place des Canotiers à Québec avec une grosse scène, des spectacles, des danseurs, etc., etc., etc. Et ça, ça m'avait été offert parce que sur le conseil d'administration, il y avait la sœur de Robert Lepage, Linda Beaulieu. Linda Beaulieu, ben, m'avait vu à l'anniversaire de Robert Lepage. Puis j'étais à l'anniversaire de Robert Lepage parce que j'avais fait un mariage où un des mariés travaillait avec Robert Lepage, puis Robert Lepage m'avait vu à ce mariage. Fait que tu vois, c'est un jeu de domino, là, tu recules comme ça à plein. Puis j'étais à ce mariage-là, parce qu'un des mariés, Samuel de son nom, qui travaillait avec Robert Lepage, ben lui, je l'ai vu, je l'ai connu dans les cadets. Fait que tu vois, puis j'ai été dans les cadets parce que mon ami Pierre-Luc, en secondaire 2, m'avait dit « Ça te tente, tu t'es inscrit dans les cadets », et ainsi de suite, comme ça. Fait que c'est...
Mais c'est fou que ben, l'univers a un grand plan pour nous, puis on le sait pas tout le temps, tu sais, puis on n'a pas toujours besoin de comprendre pourquoi, sous le coup.
Non,
genre,
exactement.
Pourquoi tu as décidé de faire les cadets à 12 ans? Ben parce que c'est la bonne chose à faire à ce moment-là.
Mais parce que quelqu'un me l'a proposé. Exactement. Mais tu sais, à nouveau, comme je te dis, moi, j'ai l'impression des fois, tu sais, moi, j'ai l'impression de ne pas avoir choisi ma vie des fois parce que moi, clairement, quand j'étais aux études à l'université, ce que je voyais, puis je me l'étais moi-même dit, quand je vais finir les études universitaires, c'est fini la carrière de drague. Là, je veux m'établir, je veux une routine, je veux travailler à temps plein, je veux une stabilité, je veux etc., etc. Puis... Là, je suis allé dans l'opposé complètement parce que, justement, d'autres personnes m'ont proposé des choses qui allaient ailleurs que ce que moi, j'avais envisagé, ce que j'avais comme vision. Puis finalement, je me suis ramassé complètement ailleurs. Plutôt qu'être dans la stabilité, d'avoir un chien, une maison, peut-être des enfants, un mari peut-être, je ne sais pas, bien là, je suis complètement à l'opposé. Alors, à part peut-être le fait que j'ai un lapin, là. mais tu sais, puis encore, c'est ma mère qui s'en occupe depuis un an. Fait que j'ai plus vraiment de lapin, en tout cas, whatever. Mais je suis dans l'instabilité, je suis dans le... j'adore ma vie, par exemple. J'adore ce que je fais, il n'y a aucun problème. Mais ça a vraiment fait en sorte que j'ai pas nécessairement eu... j'ai pas l'impression d'avoir choisi ma vie, même si oui, effectivement, j'ai dit oui. Mais j'ai dit oui parce qu'il y a des gens qui m'ont vu là. J'ai toujours poussé pour faire le mieux que je pouvais dans chacune des opportunités pour être, je veux dire, à 100% dans les projets qu'on me proposait. Mais c'est pas moi, en bout de ligne, qui les a initiés, ces projets-là. Et donc, c'est là, dans ce moment-là, que ça me donne l'impression, des fois, de pas toujours avoir choisi ma vie. Parce que si ça avait été la vie que j'avais choisie, je serais effectivement probablement, tu sais, j'enseignerais, on ne se serait pas parlé en ce moment parce que Barbada n'existerait probablement plus. J'aurais une carrière d'enseignant à temps plein avec qui filerait tranquillement vers la retraite. Puis bon, mais ça, c'est ce que je voyais quand j'étais à l'université, là, tu sais, puis que j'avais mi-vingtaine, début vingtaine en fait, plus début vingtaine, bref. On ne le sait pas. Peut-être que ce plan-là n'aurait pas fonctionné du tout, puis qu'à un moment donné, je me serais écœuré de l'enseignement. J'en ai aucune idée. Peut-être que j'avais besoin de la drague aussi dans ma vie, puis des autres choses que je faisais aussi dans ma vie pour me sentir complet. Mais ça fait en sorte aussi que certaines fois, je me sens débordé, je me sens comme « ouf, j'en ai beaucoup ». Mais en même temps, je me rappelle que c'est comme ça que j'ai... C'est le chemin que j'ai choisi dans ma vie, si on veut, c'est de dire oui à tout. Fait que ça va à gauche et à droite, c'est mélangé. Mais ce mélange-là fait en sorte que je suis, je pense, une personne encore plus épanouie que si j'avais choisi de focusser dans un projet ou une ligne directrice dans ma vie. Ça aurait été autre chose. Comme je te dis, j'aurais peut-être des enfants, j'aurais peut-être une famille, je serais peut-être marié, je ne sais pas, j'en ai aucune idée. Ça fait peur un peu, par exemple, aussi. Il ne faut pas trop réfléchir à ça parce que, comme moi, c'est la vie. Parce que, à un moment donné, ça te fait peur. Tu te dis, aïe, aïe, si j'avais dit non à cette personne-là, si j'avais dit non à Dream, alias Dream, là, qui est le nom de la drague, en avril 2005, si j'avais dit, ah non, merci, ça ne me tente pas vraiment, j'aurais-tu continué ma carrière de drague? Est-ce que Barbada serait là aujourd'hui? Mm. Est-ce qu'il y aurait une émission pour enfants Barbada? Est-ce qu'on ne se serait pas rencontrés? Tu sais, c'est ça, là. Des fois, j'essaie de ne pas trop y penser parce que jusqu'à un certain point, ça peut quasiment faire peur.
Mais c'est vrai que ça peut changer sur une décision, tu sais. T'as
oui,
raison?
Oui, tout à fait. Oui,
mais puis quand tu y penses, est-ce que ça fait peur parce que tu te demandes si... tu serais plus épanoui dans cette vie-là ou ça fait peur parce que tu te demandes qu'est-ce qui aurait pu arriver de différent?
En fait, ça me fait surtout peur à cause de savoir l'impact d'une petite décision. Ouais. Tu sais, le butterfly effect, comme ils disent, ouais. Là, un peu, là, bon, c'est pas la bonne référence, mais bref, l'effet papillon de dire tu prends une petite décision qui semble banale cette journée-là qui peut avoir un impact large sur ta vie. C'est fou. Puis pas juste ça aussi. Après, Dream, qui malheureusement nous a quittés beaucoup trop récemment, là, beaucoup trop jeune, à l'âge de 39 ans, en début d'année, tu sais, aurait pu avoir cette réflexion-là aussi. Puis certains l'ont eu en voyant aussi ma carrière qui évolue et tout ça, de dire aïe, aïe, OK, si je l'avais pas abordé, qu'est-ce qui se serait passé? Fait que tu sais, c'est pas nécessairement juste des choses par rapport à nous. C'est aussi par rapport à ce qu'on a fait aux autres, par rapport aux choses qu'on a dites aux autres qui, des fois, nous semblent banales, mais qui, des fois, peuvent avoir un impact sur des années et des décennies. Je veux dire, Dream, ça demande de dire « Hey, ça te tente-tu de venir faire un spectacle? » Là, cette soirée-là aurait pu avoir... comme je te dis, moi, j'aurais pu dire non, mais elle aurait pu aussi ne pas me le proposer. Et donc, ça aurait fait en sorte qu'on ne se serait pas parlé aujourd'hui. Ça aurait fait en sorte que ma vie aurait été probablement complètement différente. C'est surtout cet aspect-là qui me fait qui me fait peur dans le sens, tu sais, quand je dis peur, évidemment, c'est pas de la peur, peur, mais ce que je veux dire, c'est que c'est dans le sens que je me dis, aïe, c'est plus de réaliser l'incroyable puissance d'une décision dans ta vie, certaines fois.
Mm-hmm. Oui, c'est vrai, tu as tout à fait raison. Puis, comment ça... Mon Dieu, je perds mes mots. Comment ça se passe maintenant, justement, dans le monde... Tu sais, moi, c'est pas un monde avec lequel je suis familière. C'est peut-être pas un monde avec lequel les auditeurs sont familiers non plus. Le monde de la drague, en fait, ou tout ce que tu fais, même. Tu sais, moi, je trouve que ça semble être un beau moyen d'expression, très créatif, puis tout ça. Mais en fait, comme... Tu sais, ça, c'est mon opinion de l'extérieur, tu sais. Puis j'imagine que c'est un monde en soi aussi, puis que ça apporte bien plus que juste... un moyen d'expression, tu sais, que ça doit être une communauté aussi, qu'il doit y avoir plein de choses derrière ça, avec le côté humain qu'on gagnerait sans doute tous à connaître à ou avoir un glimpse de plus, oui. Oui, c'est ça, à découvrir.
Bien, effectivement, tout ce que tu dis est véridique, c'est bon. Premièrement, la drague, pour les gens qui ne connaîtraient pas ça, c'est vraiment une forme d'art qui combine plusieurs formes d'art. C'est-à-dire que les spectacles de drag, c'est des spectacles où il y a de la danse, il y a du chant, même si ce n'est pas des vrais chanteurs, chanteuses, on ne chante pas avec notre vraie voix, c'est du lip-sync. Il reste que l'imitation du chant doit être parfaite, doit être à la perfection. C'est de l'humour, il y a beaucoup, beaucoup d'humour d'intégrer là-dedans. C'est évidemment l'aspect maquillage, l'aspect coiffure, l'aspect mode, qui sont, selon moi, toutes des formes d'art aussi. C'est toutes ces formes d'art-là combinées en une seule forme qui est la drague. Et c'est pour ça que c'est quand même assez, je veux dire, niché, parce que les chanteurs, ils chantent. Les chanteurs-chanteuses, évidemment, là, chantent. Certaines fois, ils vont danser aussi, si, exemple, on ajoute l'aspect comédie musicale ou quoi que ce soit, mais des chanteurs-chanteuses qui ont à, tu sais, se maquiller eux-mêmes, à se costumer eux-mêmes, à se mettre leur, tu sais, trouver leur perruque eux-mêmes, etc., etc. Des chanteurs, chanteuses qui, bon, tu comprends ce que je veux dire, les humoristes mm-hmm. sont dans leur univers de l'humour, mais je connais pas beaucoup d'humoristes qui vont faire autant de formes d'art que la drague le permet. Fait que ça, faut avoir une polyvalence extrême pour bien réussir dans l'art de la drague. Et donc, c'est ça. La drague, c'est ça. Oui, c'est effectivement une communauté, quand même, de par le fait que c'est un univers qui est encore relativement peu connu. Évidemment, ça l'est de beaucoup, c'est de plus en plus avec tout ce qui est RuPaul's Drag Race, avec les émissions où on voit des dragues de plus en plus. Alors, si les gens connaissent pas c'est quoi la drague, je les inviterais vraiment fortement à découvrir ça, à aller s'informer, à aller voir, parce que c'est définitivement, comment dire, c'est définitivement quelque chose qui mérite d'être découvert. Et surtout avec la présence maintenant des dragues, tu sais, on voit Rita Baga beaucoup, beaucoup dans les médias, on voit beaucoup d'émissions sur les dragues. Je pense que on peut... c'est bénéfique pour tout le monde de découvrir c'est quoi pour comprendre un peu mieux qu'est-ce que c'est. Cet art-là. Mm-hmm. Oui, pour moi aussi, c'est non seulement un exutoire, ça me permet de me défouler sur scène, ça me permet de défouler des idées que j'ai dans ma tête, de les mettre en scène, tout ça. Mais à nouveau, je l'ai dit aussi, ça me permet de rencontrer une foule de personnes que je n'aurais pas l'occasion de rencontrer sinon, avec qui je peux discuter, avec qui des ça va des auteurs, autrices, à des comédiens, des comédiennes, à des personnes de tous les horizons. Parce que quand je fais, par exemple, j'anime un mariage et que je me promène puis que je rencontre un mariage, on ne sait pas, il va y avoir des avocats, il va y avoir des juges, il va y avoir des pompiers, des policiers, il va y avoir de tous les gens, de tous les univers, là. Et moi, j'ai cette chance-là de pouvoir aller discuter avec ces personnes-là pour... On ne sait pas pourquoi, en fait. C'est ça l'affaire. Est-ce que ce sera pour avoir d'autres contrats plus tard? On ne sait pas. Est-ce que ce sera pour qu'ils vont aller m'éclairer sur quelque chose que je ne connaissais pas et qui, à cause de ça, va faire en sorte que, ben, crime, je vais peut-être avoir une autre porte qui va s'ouvrir, j'en ai aucune idée, c'est ça.
Ouais. Mais... Puis ça doit être beau de, tu sais, toutes les connexions humaines qui se font. Est-ce que tu trouves que la connexion humaine se fait de façon différente, que tu sois Sébastien ou que tu sois, ben que tu sois, t'es toujours une seule mm-hmm. personne entière, là, mais tu comprends ouais. qu'est-ce que je veux dire?
Je comprends ce que je veux dire. Je suis pas
Barbada ou... Ouais. Oui, c'est ça, exactement. Mm-hmm. Est-ce que tu vois que la façon dont les gens t'approche ou s'ouvre à toi ou peu importe, elle se transforme selon la oui. partie de toi qui est visible?
Définitivement, c'est sûr. Oui. C'est sûr que quand je suis en Barbados, j'ai cet aspect de divertissement-là. Alors, je n'ai pas le choix aussi de mes interactions soient divertissantes et que mon personnage soit divertissant. Mais si j'ai à m'amener à être, je veux dire, plus humain ou délaisser le personnage un peu pour avoir une conversation un peu plus, je veux dire, personnelle ou à la limite, je dirais pas intime, c'est rare qu'on va dans les conversations intimes, mais quand même peut-être un peu plus personnel. Ben, le personnage de Barbada a permis d'aller vers ça, a permis l'ouverture pour dire « Ah, oh, Barbada est le fun, elle a l'air divertissante, elle a l'air le fun, je me sens à l'aise de lui parler. » Mais en bout de ligne, c'est quand même, quand on est rendu dans des conversations peut-être plus personnelles, ben là, c'est plus Sébastien qui parle mm-hmm. de ses expériences personnelles ou qui écoute la personne aussi. Je l'ai dit tantôt, il faut écouter beaucoup, ben t'sais, moi, j'écoute beaucoup aussi ce qu'on me dit, même si je sais que c'est un peu drôle parce que là, je parle depuis 20, quelques minutes, une demi-heure, puis j'ai...
C'est une, oui, mais c'est ça, le, c'est ça l'intention aussi. C'est ça l'intention du moment aussi. Mais là, il y a plein de choses qui me viennent dans ce que tu dis. La première chose, ça serait... tu sais, est-ce que... J'imagine que ça doit être vraiment inspirant pour des gens qui se sentent pas à l'aise d'être eux-mêmes, 100%. De voir quelqu'un comme toi qui s'autorise, en fait, à être authentique puis ouais. à être toi-même dans toute ta palette de couleurs, en fait. Ouais. Fait qu'est-ce que ouais. c'est quelque chose qui que t'as mais, souvent comme... Ben, souvent, en tout cas, qui est venu...
Ben, c'est intéressant ce que t'amènes là. Parce que quand je disais tout à l'heure qu'on bâtit notre évolution à partir de notre naissance, là... tu sais, moi, quand tu dis « Ah, toute ta palette de couleurs, toute ta... ta » J'ai toujours été... dans la différence ou presque, OK? Dès ma naissance, je veux dire, je suis né à Beauport, en banlieue de Québec, et là, tu as remarqué, moi, je suis noir, évidemment, mais ma mère est blanche, donc je suis ce qu'on appelle le métis ou mulard, dépendamment des expressions. Mon père est noir, je ne l'ai jamais connu, je ne l'ai jamais vu, d'accord? Donc, dès ma naissance, je naissais déjà dans quelque chose dans un peu différent, tu comprends? Dans le sens que les gens comprenait. Aujourd'hui, évidemment, on est ailleurs. Là. 37 ans plus tard, on est quand même ailleurs. Mais on recule de 37 ans, puis une femme qui accouchait d'un garçon noir à Québec, en banlieue de Québec, dont le père est marqué inconnu sur le... C'est pas mal plus rare. On n'était pas là-dedans, là, tu sais. C'est sûr que c'était pas... On n'était pas dans les filles de Caleb, là. On recule pas si loin que ça, là, mais quand même, tu sais.
Non, mais quand même, puis juste le fait que ce soit à Québec versus Montréal, même dans ce temps-là, la différence est là, tu sais. Puis sans, c'est pas un jugement, c'est juste un fait, là.
C'est un fait, t'as tout à fait raison. Donc, tu vois, quand tu disais tantôt, les gens qui... Tu sais, moi, aujourd'hui, je me permets de vivre... comme je vis dans ma différence en acceptant ça, parce que dès le début, j'étais là-dedans. Donc, mon évolution personnelle, elle a commencé dès ma naissance. Quand je te disais ça, là, tu as un exemple concret de ça. Mm-hmm. Ma mère, toute ma vie, ne s'est jamais remise en couple. Elle j'ai jamais eu un homme dans ma vie, là. Même pas juste le temps d'une fin de semaine ou d'un... Puis, tu sais, qu'elle me présente en disant, « Ben, voici ton nouveau beau-père. » Jamais. Jamais, 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 jamais. Encore à ce jour, ma mère est célibataire, tu sais. On s'entend que c'est très différent. Puis ça, c'est des choses que, évidemment, quand tu es jeune, tu le réalises pas, tu le constates pas. Ben, c'est pas vrai. Parce que des fois, tu le constates quand tu te fais demander, ben c'est qui ton père? Tu dis, ben j'en ai pas. Puis les gens disent, ben c'est sûr, t'en as un père. Non, j'ai un géniteur, mais j'ai pas un père. Il y a pas de ouais, père
c'est ça. Dans ma vie. Non, ça va au-delà du rôle de...
Mais ça, t'es pas capable d'expliquer ça quand t'as 10-12 ans, là. Je suis capable de l'expliquer aujourd'hui à 37 ans que, oui, j'ai un géniteur à quelque part, mais j'ai jamais eu de père, tu sais. C'est vraiment particulier. Mais ça forge tout ça d'être dans la différence constamment. J'ai vécu mon primaire dans une école qui était vraiment, vraiment différente, où au fur et à mesure que j'avançais c'est une école privée dans le coin de La Salle, puis par la suite de la Chine, où Au fur et à mesure où j'avançais dans mon primaire, l'école réduisait en grosseur parce qu'il y avait des problèmes financiers, problèmes administratifs, tout ça. Ce qui bien que en ma quatrième année du primaire, j'étais dans une classe de 8 élèves avec Mme Pinsonneau. Bon. Wow. Et dans ma cinquième année du primaire, on était 12 dans toute l'école. Wow. Pas dans toute ma sixième année, ma cinquième année. Non, non, dans toute l'école. On était dans un petit appartement, dans la salle, et la directrice était notre enseignante. Puis on avait une deuxième enseignante qui enseignait des mathématiques. Puis on était séparés les premières, deuxièmes, troisièmes et les quatrièmes, cinquièmes, sixièmes. Donc, dans le salon qui était reconverti en salle de classe, il y avait les 1, 2, 3 le matin qui faisaient les matières français et toutes les autres matières avec la directrice, Mme Jenke, je m'en souviens de son nom. Et dans la chambre à coucher, qui était évidemment reconvertie en salle de classe, ben on faisait les 4, 5, 6, les mathématiques. Puis l'après-midi, ben on switchait. Mais tu sais, j'ai une photo de notre école, pas de notre classe, de notre école sur les marches devant l'appartement. Puis les 12 élèves qui sont là, ben c'était l'école Michelin-Janky. Fait que tu comprends que quand tu vis dans ça aussi, tu fais comme... Avec le recul, quand tu es là-dedans, c'est sûr que tu t'en rends pas te compte un peu, mais comme moi, c'est avec le recul que je me rends compte à quel point, aïe, aïe, on était vraiment ailleurs. Tu sais, une école, quand tu dis j'ai été 12 dans toute mon école primaire, voyons donc. Les gens, c'est même pas une classe normalement dans des écoles primaires, tu sais, 12 élèves. Tu sais. Alors, c'est ça. Puis la différence, c'est poursuivie par la suite, parce que là, en étant aussi peu nombreux, j'ai avancé vraiment vite. J'ai sauté ma sixième année. Donc, dès le secondaire, j'avais un an de moins que tous les autres dans ma classe. Donc, tu sais, en secondaire 1, j'ai commencé, j'avais 11 ans. Puis, comme ma fête est au mois d'août, ben, j'ai eu 11 ans toute l'année scolaire. Puis, 12 ans en secondaire 2, où j'ai commencé les cadets, justement, avec grâce à mon ami Pierre-Luc, etc., etc. Mais tout ça... Tu sais, mes intérêts étaient très différents aussi. Je me souviens en secondaire 1 que j'avais fait le cours de tricot. Tu sais, on entend qu'il n'y a pas beaucoup de garçons qui font ce cours-là, là, comme activité parascolaire. Là. Le cours d'origami aussi en secondaire 2. Fait que tu sais,
j'ai toujours... Penses-tu que le fait que ton parcours scolaire, que ton environnement était déjà différent, entre guillemets, parce que je pense que tout est, tu sais, différent, là, en tout cas. Mais... que ton environnement était déjà différent à ce moment-là, penses-tu que justement ça t'a aidé à être 100% toi-même là-dedans versus si tu avais été dans le milieu scolaire traditionnel? Ou en fait, on peut pas le savoir, mais...
On peut pas le savoir, évidemment, c'est à moins d'avoir une boule de cristal. Puis si t'en as une, dis-moi-le tout de suite, j'aimerais bien, j'ai des questions à te poser. Mais sincèrement, non, je pense que oui, c'est sûr que ça a eu une influence, c'est forcément, mais... C'est des petites influences ici et là dont on ne se rend pas compte quand on est dans le moment présent.
Non, non, ça, c'est sûr.
C'est ça. Ouais. Puis c'est après que tu te rends compte, tu réalises que, ben c'est sûr que j'ai pas de misère à faire des choses qui sont différentes. J'ai été dans la différence toute ma vie, dès ma naissance. Ouais. Alors, j'ai pas de misère à me dire, ah, j'ai plein de décorations, de lumières chez nous, puis des lumières que j'utilise, par exemple, pour mes contrats de DJ. Plus, on a une pandémie, puis ils ne servent pas. Ben, coudonc, je vais les utiliser, je vais mettre ça comme décoration de Noël, puis faire un spectacle de Noël pour les résidents du quartier. Fait que je m'installe, je fais des... Je pars, puis tu sais, n'importe qui aurait dit, ben voyons, là, il va y avoir plein de monde, ça va être weird, etc. Ou il y a plein de personnes qui auraient été dans... Je ne vais pas dire le doute, mais le questionnement, parce que c'est tellement... C'est quand même différent ou c'est
de ce que l'extérieur. Oui, c'est ça, le questionnement de ce que l'extérieur va penser, en fait.
Exactement. Mais moi, l'extérieur, j'ai tellement été habitué de me... Comment dire? Tu sais, ma mère, elle disait toujours, laisse pas la pluie d'insultes atteindre le parapluie de ton indifférence, tu sais. Fait que moi, à un moment donné, les questionnements des autres, qui n'ont pas toujours été des insultes, forcément, Dieu merci, mais à un moment donné, le questionnement des autres, je m'en occupais presque plus quand je prenais des décisions, contrairement effectivement à beaucoup de personnes qui vont dire « Mais là, qu'est-ce que je vais penser? Qu'est-ce que les autres vont penser? » Beaucoup de gens, des fois, c'est niaiseux, mais qui vont dire « Ah ben non, je ne sortirai pas tout seul, là, je vais avoir l'air loser. »
Moi, mais c'est à jamais... Beaucoup de gens, c'est niaiseux, tu penses? C'est ça arrive à genre tellement de gens. Oui. Ça n'a pas de bon sens, tu sais, puis de se dire comme, mais voyons, c'est ta vie à toi, c'est pas celle du voisin, là.
Exactement, t'sais. Exactement. Et moi, ça n'a jamais été un questionnement. Mm. Tu comprends? Mm. Et à nouveau, je reviens à ma mère. C'était exactement ça pour ma mère aussi. Tu sais, elle ne s'est jamais posé la question. En tout cas, je ne sais pas dans sa tête, peut-être qu'elle se l'est posée, mais elle ne m'a jamais fait sentir non plus que. C'était un fardeau pour elle d'être dans cette différence-là, puis d'avoir un enfant noir monoparental. Tu sais, ça n'a jamais été ça. Puis elle, faire quelque chose toute seule, de façon indépendante, autonome, ça n'a jamais été un problème. Puis, tu sais, moi, il y avait une phrase qui m'avait vraiment, vraiment saisie. Je dirais même presque choqué, c'est pas une phrase, c'est une question en fait, qui m'avait presque choqué d'une collègue enseignante à qui j'expliquais à un moment donné mon parcours, puis j'expliquais que justement ma mère, elle avait jamais connu mon père, tout ça, puis elle a couché de moi, puis elle avait jamais connu mon père. Ben, elle a connu forcément, mais que, tu sais, il est parti très très jeune, là, bon, tu comprends ce que je veux dire. Moi, j'ai jamais connu mon père, mais mon père est parti quand j'étais bébé. Puis sa question à ma collègue, c'était, ah, oh, mais est-ce que ta mère, elle a refait sa vie? Puis là, j'ai comme saisi, puis fait « Ah! Refaire sa vie? »
Comme pourquoi si sa vie était terminée, tu sais. Mais
comme oui. Si sa vie avait été terminée ou avait eu un... Ou comme s'il manquait quelque chose à sa vie, qu'elle avait besoin de le refaire parce qu'elle n'avait pas un homme dans sa vie. Ou parce qu'elle avait... Tu sais, moi, j'ai comme saisi, j'ai vraiment... je te dis, j'ai saisi comme du steak dans le poil. J'ai fait, je comprends pas ta question. Voyons donc, ma mère n'a pas eu besoin de refaire sa vie. Elle a eu une vie épanouie. Elle a fait des voyages. Elle a eu une carrière comme infirmière extraordinaire. Elle est maintenant à la retraite, mais elle a une retraite épanouie dans laquelle elle se sent bien. Elle est en santé. Elle est. Elle a pas jamais eu besoin de refaire sa vie, surtout pas à cause qu'il manquait, selon tes standards, un homme dans sa vie. Moi, j'ai été un peu abasourdi de cette question-là, puis de penser que... C'est parce que, en fait, la raison pour laquelle j'ai été abasourdi, c'est que j'avais jamais réalisé qu'il y a des gens pour qui ça, c'était le but ultime.
Oui, mais c'est et tellement donc... ancré, ça n'a aucun bon sens, là. Tu sais, moi, ça fait 5 ans que je suis séparée du père de mes enfants puis que je suis seule par choix. J'ai volontairement fermé la porte parce que j'avais plein de blessures à guérir avec moi-même, j'avais plein de travail à faire sur moi-même. Puis aujourd'hui, ma vie, elle est absolument merveilleuse. Tu sais, puis la journée où il y a quelqu'un qui va rentrer dans ma vie amoureusement, un partenaire, ben ça va être parce que ça va embellir encore plus ma vie, pas parce que j'ai besoin de. Exactement. Mais tu sais, il y a des gens bien intentionnés dans mon environnement qui me disent, tu sais, ah, quand tu vas trouver quelqu'un, tu vas vraiment être heureuse. Puis j'étais comme, mais je suis déjà vraiment heureuse. Tu sais, j'ai pas besoin de trouver quelqu'un, je m'aime moi-même. J'ai plein de gens qui m'aiment autour de moi. Exactement. Tu sais, c'est pas un but ultime, tu sais, mais je le sais que c'est rempli de bonnes intentions, mais c'est fou comment. Ouais.
Ben écoute, on est définitivement sur la même longueur d'onde là-dessus. Puis tu sais, j'ai longtemps été célibataire. Je suis extrêmement heureux en couple depuis 2 ans. Mais je sais très bien que c'est particulier puis c'est difficile d'être en couple. Bon, quelqu'un qui est à Québec en plus, ça fait qu'il y a 2 heures et demie de route qui nous séparent, qui lui a une carrière, qui a une carrière, qu'on a des horaires complètement différent parce que lui, c'est du 9 à 5, lundi au vendredi, alors que moi, je suis dans les horaires éclatés à des fins de semaine, des soirs, des jours, etc., etc., à des blitz de 4, 5, 6, 7 jours non-stop, puis après ça, 3, 4 jours de congé, c'est complètement éclaté. Je sais que c'est weird aussi, je suis très heureux là-dedans, ça nécessite évidemment des adaptations, c'est clair. Mm-hmm. Mais, je veux dire, je trouverais mon bonheur aussi si j'étais pas en couple. Mm. Tu comprends? C'est pas un but ultime. Et ça, vraiment, définitivement, ça m'a beaucoup saisi quand cette personne-là a dit ça de ma mère. Refaire sa vie. Puis c'est l'expression, tu sais, refaire sa vie.
Oui.
Refaire. Moi, je suis comme, mais tu peux pas refaire. Écoute, La seule façon de refaire ta vie, c'est d'avoir une machine à remonter dans le temps. Ça, il n'y a personne qui l'a encore. La journée où on l'aura, cette personne-là sera multimilliardaire. Mais pour l'instant, il n'y en a pas de machine à remonter dans le temps. Alors, tu ne peux pas refaire ta vie. Tu peux juste poursuivre ta vie, la faire prendre les directions que tu veux, mais jamais refaire ta vie. Ça m'a vraiment... Puis écoute, à quel point, justement, ça m'a marqué. Tu vois, j'en parle encore aujourd'hui. Je ne me souviens même plus c'était qui la personne qui m'a dit ça, ni dans quel contexte, à part que c'était une collègue enseignante. Mais ça m'a tellement frappé. C'est fou. C'est fou. Et j'invite, en tout cas, j'espère que les gens qui nous écoutent auront cette audace-là à un moment donné de dire « je fais des choses qui sont en dehors de la boîte, même si ce n'est pas ce qui m'a été appris, même si c'est différent, même si ça me paraît un peu audacieux ou un peu whatever, go! » J'arrête pas de dire depuis tantôt que les gens m'ont proposé des choses où ça m'a amené à des places que j'aurais jamais espéré. Mais l'affaire, c'est que non seulement j'aurais pas espéré, c'était pas genre je sais pas si j'aime ça ou pas. C'est que je savais pas que je savais pas. Parce que moi, c'était même pas. Mais c'est ça. C'était même pas dans je me suis jamais même posé la question, ça me tente-tu de faire ça ou pas? Puis là, après, dire, je sais pas. Puis là, j'étais dans le doute. Mais c'est correct d'être dans le doute aussi, par exemple. On a le droit de pas savoir ça. C'est très, très correct aussi. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que je m'étais même pas posé la question. Alors, je pouvais pas me dire, je le sais pas, ou bien, oui, j'aime ça ou non, j'aime pas ça. Alors, je savais pas que je savais pas. Donc, quand tu t'ouvres comme ça à des opportunités, ça t'amène dans des endroits que toi-même, tu n'aurais pas pensé aller. Puis, en tout cas, moi, pour moi, ça m'a excessivement bien servi. Et je suis d'avis que ça peut jamais être un échec monumental ou à 100%. Il y a des fois où ça marche moins bien, puis des choses, tu fais comme, on le fera pas, d'accord. Mais au moins, tu auras appris que ça n'a pas marché, on ne le fait pas, on passe au prochain appel, tu sais, je ne referai pas ça, ou peu importe. Mais pour ça, il faut que tu l'aies essayé. Oui. Et si tu te freines toi-même dans ton en te disant je pense c'est trop différent ou je sais pas, ça va être qu'est-ce que les autres vont en penser ou qu'est-ce que, etc., etc. Tout ce questionnement-là, si ça te freine à t'ouvrir ces opportunités-là puis ces portes-là, moi, je trouve ça dommage, personnellement, en tout cas.
Mais c'est qu'on ne vit jamais complètement notre vie, dans le fond, dans ce temps-là, tu sais. Puis c'est ça que je trouve plate. On est en mode survie versus genre en mode je vis, j'explore, tout ça. Puis comme tu dis, moi, je pense qu'il n'y a pas d'erreur non plus, il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de... Ça fait juste nous donner des indices, en fait, tu sais.
Oui,
ça me donne un
exactement.
Indice de genre, ça, j'ai vraiment pas aimé ça, j'ai pas envie de le répéter. Ça, j'ai aimé ça, mais j'aimerais ça le retrouver dans un autre contexte ou peu importe, tu sais. Mais comme tu dis, si tu ne l'as pas essayé, tu ne peux pas le savoir. T'sais.
Exactement, on apprend. Voilà.
Oui. Puis une autre question qui me venait tantôt, c'était, tu sais, justement, le fait de, comme on parlait avant de commencer à enregistrer aussi, le fait qu'il y a plusieurs aspects de toi, en fait, qui sont présents dans différents aspects de ta vie, en fait, qui fait un tout holistique qui est toi. Ouais. Mais comment tu fais pour combiner, comment tu navigues de combiner tout ça, en fait, à l'intérieur de toi, tu sais?
Ben, je te dirais que c'est sûr que, d'un point de vue très terre-à-terre puis technique, là, c'est beaucoup avec les horaires. Dans mon cas, c'est beaucoup la gestion d'horaires qui est complexe et qui, jusqu'à tout récemment, l'était encore plus parce que là, j'ai trouvé une agente qui me permet encore plus de me libérer de certains aspects techniques puis logistiques et qui s'occupe de... C'est tout récent, là, ça date de la mi-juillet, là, donc c'est vraiment, vraiment tout récent. Et donc ça fait en sorte que déjà, là, je peux souffler un peu plus, mais avant ça, c'était beaucoup, beaucoup de la gestion d'horaire, de calendrier. L'application dont je me sers le plus souvent dans mon téléphone, c'est mon calendrier, clairement. Puis après ça, c'est les courriels pour les demandes qui rentrent, etc., etc. Bref, donc ça, d'un point de vue technique, c'est ça. D'un point de vue personnel, c'est dur parce que j'ai comme l'impression que ça se fait naturellement. Mm-hmm. Tu sais, j'ai pas l'impression nécessairement de devoir réfléchir à... OK, là, c'est Barbada ou OK, là, c'est... C'est sûr que naturellement, je le fais. Quand je suis devant une classe d'élèves, il faut que j'aie cette réflexion-là quand même ou dire OK, là, dis pas des choses comme quand t'es en Barbada, là, fais pas le même genre de blague, etc. Tu sais, évidemment, mais ça vient naturellement aussi. Le contexte fait en sorte que j'ai pas... Bon, on comprend. Mais il reste que, c'est ça, je sais pas, ça se fait naturellement, probablement, combiner tout ça, mais c'est clair que c'est pas facile, là, je sais très bien. Regarde, je le répète, mais moi, ce que je voulais puis ce que je souhaitais début vingtaine, quand j'ai fini l'université, c'était, mi-vingtaine, quand j'ai fini l'université, c'était vraiment de dire, ça va être, je voulais la routine, je voulais le confort, je voulais la stabilité, je voulais la sécurité, tu sais. Et ça fait que c'est normal de se tourner vers ça, de vouloir ça. Là, j'ai tout l'inverse. Fait que c'est sûr que c'est insécurisant des fois. Puis là, je suis très content parce que ça roule beaucoup, mais je ne sais pas dans un an comment ça va se passer. Est-ce que je me casse une jambe, puis là, tout arrête soudainement. Puis après ça, plus personne ne me rappelle parce qu'ils m'ont oublié, parce que je n'ai pas été là pendant 2, 3, 4, 5 mois. Tu sais, ça, c'est toute cette insécurité-là aussi. C'est vrai que ce n'est pas évident à gérer. Mais je la préfère, je pense, de loin, quand je regarde tous les bénéfices, à une routine qui... m'amènerait, oui, cette sécurité-là, mais en même temps, peut-être me fermerait des portes à des opportunités que j'ai en ce moment.
Mm-hmm. Puis est-ce que tu dirais que cette sécurité-là, tu l'as trouvée à l'intérieur de toi ou ailleurs, en fait, que dans l'extérieur qui est la routine ou peu importe?
Bien, c'est sûr que la sécurité, je l'ai trouvée dans la confiance en moi que j'ai bâtie à travers le temps, avec toutes les expériences que j'ai faites, la discipline personnelle que les forces armées m'ont apportée, les cadets que j'ai fait pendant 6 ans de temps, puis ensuite, comme officier dans les forces armées que j'ai fait pendant 7 ans de temps, tu sais, cette discipline personnelle-là de te challenger, puis de te pousser aussi, parce que dans certaines de mes formations, j'ai été mis dans des situations qui te poussent presque en mode survie, dans le sens que tu dis « Oh, OK, là, si je ne suis pas à mon maximum, si je ne donne pas mon maximum, je ne passerai pas au travers. Mm-hmm. » Mais ça te permet d'aller rechercher ça de temps en temps, aller le retrouver, ce maximum-là, puis dire « OK, là, je suis dans une passe là où, oh boy, il faut que je donne mon plein, c'est là, je sais que ça va être un rush à donner, c'est une semaine, c'est 2 semaines, c'est 1 mois, je sais pas, mais go, on pousse nos limites, on dépasse, l'accomplissement de soi, un peu comme un athlète aussi qui se dit, qui court un marathon, qui fait comme, bon, c'est le mental, bien sûr que c'est beaucoup, beaucoup dans le mental, c'est clair, mais ça a été beaucoup amené avant, grâce à toutes les choses qui m'ont été amenées, voilà.
Oui, mais je pense aussi que c'est qu'on développe une certitude, tu sais, à l'intérieur de nous. Bon, en tout cas, que j'ai développé dans les dernières années, puis peut-être que c'est différent pour toi, mais de ce que tu nommes, je pense que c'est la même chose, de dire, comme, j'ai créé une évidence pour mon cerveau que je suis capable de le faire. Genre, donc, j'ai cette certitude-là à l'intérieur de moi que je suis capable de passer au travers de n'importe quoi. Tu sais, je suis capable de le faire si je choisis de le faire, en fait.
Exactement. Oui, exact. Ouais. C'est vraiment une discussion intéressante. Je trouve ça vraiment le fun. Ça nous amène vraiment à des endroits le fun puis des réflexions que je trouve importantes de temps en temps de prendre le temps de faire aussi, surtout dans une vie occupée. Là, je trouve ça important de prendre quand même ce temps de prendre un petit pas de recul pour y réfléchir aussi. Il ne faut pas toujours être dans la réflexion. Je trouve qu'il faut être dans l'action aussi, certaines fois aussi. Puis justement, pas trop dans la réflexion, parce qu'à un moment donné, c'est là que des fois s'installent les doutes, puis s'installent les incertitudes, etc. Des fois, faut y aller, faut foncer. Ouais. Mais c'est important aussi quand même de prendre cette réflexion-là, comme on le fait aujourd'hui. Je trouve ça intéressant.
Oui, tu as raison. Puis, t'aurais-tu une réflexion, justement, que tu aurais envie de nous partager avant qu'on termine notre discussion ensemble?
Ben moi, deux choses qui mènent ma vie, que je suis d'avis que, en tout cas, c'est il n'y a pas grand-chose qui sont vraies pour tout. Mais moi, il y a deux choses pour moi que je trouve qui s'appliquent à presque toutes les situations. La première chose, c'est jamais complètement noir, puis c'est jamais complètement blanc. C'est un arc-en-ciel de couleurs. Même si quelque chose, puis il faut se méfier de quelqu'un qui te présente quelque chose comme étant parfait, tu sais, puis dire « Ah, ça, avant, se méfier. » Puis à l'inverse aussi, se méfier de quelque chose qui dit « Ah non, on ne va jamais là-dedans, c'est dégueulasse, etc. » Et il y a toujours un petit doute parce que c'est jamais complètement noir, c'est jamais complètement blanc. Et là, je m'étalerai pas dans toutes les sphères à laquelle ça peut s'appliquer, mais c'est large, là, très large. Puis finalement, puis deuxièmement, l'autre que j'ai, c'est les choses importantes de la vie ne sont pas des choses. J'ai une plaque que ma mère avait, que sa grand-mère, que ma grand-mère lui a donnée, puis que je vais sûrement hériter, peu importe, mais je trouve ça tellement important. Les choses importantes de la vie ne sont pas des choses. On est beaucoup dans le matériel, on est beaucoup, mais les choses, les éléments importants dans notre vie vont nous arriver de choses qui ne sont pas des choses, justement. Mm-hmm. C'est vraiment ça. Des autres êtres humains, mais de l'environnement, de la nature, des animaux, certaines fois aussi. Mais bref, de tous ces êtres vivants-là, de la vie, les choses importantes de la vie ne sont pas des choses. On est beaucoup, beaucoup axé sur le matériel, sur la propriété, sur « je vais être heureux si je m'achète telle affaire, je vais être heureux si, etc., etc. » Mais ça apporte des petits bonheurs. Ça apporte des petites doses de... mais ça n'apporte pas le bonheur. Le bonheur, il va vraiment arriver des autres, des choses importantes qui ne sont pas des choses, justement. Voilà.
Oui, ou de l'intérieur, en fait.
T'sais. De l'intérieur aussi, certaines fois, effectivement. Ouais.
Parce que je trouve que, tu sais, quand tu dis dans le matérialisme et tout ça, parce qu'on a l'impression que ça va nous faire ressentir des émotions qu'on a envie de ressentir, mm-hmm. mais dans le fond... c'est pas ça qui nous fait ressentir l'émotion, c'est qu'est-ce qu'on se dit par rapport à cette chose-là ou par rapport à cette situation, par rapport à tout
oui,
ça.
Fait que pour moi,
ça part beaucoup de l'intérieur, oui. Mais merci beaucoup pour
cette
merveilleuse conversation. Puis où les gens ils peuvent retrouver plus de toi, en fait. Je vais mettre les liens aussi dans les notes du podcast. Mais...
Barbada.ca. Il y a tous les liens vers mon émission jeunesse. Si vous avez des tout-petits, vous voulez leur faire écouter. C'est vraiment une super belle émission. Si vous vous intéressez à tout l'univers des compétitions, des téléréalités de drag, j'ai participé à une aussi qui s'appelle Call Me Mother. Les liens qui sont sur Out TV, les liens sont là. Il y a notre podcast Big Black and Beautiful à Gabrielle et moi. Il y a mon calendrier pour des événements, etc. Où me suivre pour les heures du compte, des vidéos. C'est vraiment mon site internet qui est quand même très bien fait, je dois avouer. Là, plein de photos pour voir un peu les différents univers et les différents looks de Barbada. Voilà.
Ah, waouh! Ben merci beaucoup!
Merci beaucoup, c'était vraiment intéressant. Bonne journée!
Merci, toi aussi.
Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. J'espère de tout cœur que l'épisode a vibré avec toi. Si c'est le cas, je t'invite à laisser un avis 5 étoiles ou un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify. C'est vraiment le moyen le plus efficace de faire voyager le message puis de permettre à plus de gens de découvrir le podcast. Et si tu penses que ça pourrait aider ou supporter quelqu'un que tu connais, s'il te plaît, partage l'épisode. C'est tellement précieux de savoir qu'on n'est pas tout seul avec ce qu'on vit. Je te souhaite une merveilleuse journée, puis je te dis à la semaine prochaine!